Autre caractéristique de Marie qui plaît à Thérèse et qu'elle médite, Marie a été une silencieuse, une femme à bas bruit, comme on dirait chez moi. Oh, que j'aime, Marie, ton éloquent silence. Pour moi, c'est un concert doux et mélodieux qui me dit la grandeur et la toute-puissance d'une âme qui n'attend son secours que des cieux. Comme Marie, Thérèse aimait garder toutes choses en son cœur, ses joies comme ses peines. Cette réserve, fait remarquer Sœur Geneviève, fut sa force, comme son cachet extérieur, car elle était remarquable de pondération. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas vous ouvrir de vos peines et de vos joies à votre père spirituel. Bien sûr, mais Thérèse veut surtout dire par là à ses sœurs carmélites qu'elles ne doivent pas rompre le silence contemplatif, que c'est une des grandes richesses d'une vie contemplative ou même d'une vie chrétienne, qu'il faut savoir mettre une espèce de sourdine à toutes les nouvelles qui nous viennent. Il faut les connaître, il faut compatir justement à toutes les misères du monde et nous réjouir de toutes ces joies, comme le rappelle si bien le Concile Vatican II dans sa grande constitution Gaudium et Spes. Il faut participer aux joies et aux espérances du monde d'aujourd'hui. Il n'empêche que Thérèse ne manque pas une occasion pour dire à ses novices: ne bavardez pas, restez en silence, ne regardez pas trop la gazette, juste ce qu'il faut. Écoutez beaucoup plus la bonne nouvelle de l'Évangile que toutes les nouvelles du monde. Et ce qui est amusant, c'est que lorsqu'elle prépare une pièce sur Jeanne d'Arc, elle fait vivre Jeanne d'Arc comme une petite carmélite à Domrémy, une bergère qui ne s'intéresse pas beaucoup aux nouvelles du royaume de France. Et les historiens nous disent que, sans le savoir, Thérèse nous a donné une Jeanne d'Arc historique, parce que les historiens disent qu'effectivement, la petite Jeanne ne s'occupait pas beaucoup de ce qui se passait dans le royaume de France. Ça ne l'a pas empêché d'être choisi par Dieu pour libérer la France de l'occupation anglaise. Mais surtout, Thérèse admire chez Marie sa foi. C'est la Vierge fidèle, un monument de foi. Et c'est vrai que lorsque Jean-Paul II nous fait une encyclique sur Marie, il aime aussi exalter la foi de Marie. Elle a cru qu'elle allait devenir maman sans être touchée par Joseph. Elle a cru que son enfant était le Messie alors qu'elle ne lui voyait faire aucun miracle pendant 30 ans. Elle a cru que Jésus pourrait faire un miracle à Cana alors que jamais elle ne l'avait vu faire un miracle à Nazareth. Elle a cru que son fils allait ressusciter alors qu'il était cloué sur une croix. Et c'est comme cela que nous faisons du Samedi Saint un jour consacré à Marie. Elle a accompagné les apôtres au Cénacle pour les aider à accueillir le don de l'Esprit Saint. Et puis, j'aime penser à la foi avec laquelle elle a communié des dizaines de fois quand Saint Jean célébrait la messe. On ne sait pas si c'est à Éphèse ou ailleurs. Toujours est-il que ce devait être formidable, la foi de Marie recevant le corps de son Jésus. Le corps de Jésus. Je ne sais pas comment Saint Jean célébrait la messe. Non, mais il communiait et il faisait communier Marie. Marie qui communie au corps de son fils. Je n'invente rien là. Bon, ce n'est pas dans l'Évangile, ce n'est pas dans les actes des apôtres, mais c'est évident que les apôtres ont tout de suite célébré l'Eucharistie et que Marie y a participé. Un certain nombre d'artistes ont aimé représenter cette communion de Marie. C'est surtout là qu'elle a été une femme de foi, bien plus qu'à l'Annonciation. Elle ne sentait rien du tout. Et elle communiait au corps de Jésus. Et si Saint Paul a pu dire « ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi », a bien plus forte raison la petite Marie à la fin de sa vie. Elle savait que tout ce qu'elle avait, que tout le dynamisme qu'elle avait, que toute la charité qu'elle avait, ça lui venait de Jésus. Car n'oublions pas que toute la richesse spirituelle de Marie lui vient du corps qu'elle a enfanté. C'est extrêmement mystérieux là aussi, mais c'est merveilleux. Tout ce que Marie possède, elle le reçoit par le corps de son fils. Si elle a pu dire oui à Dieu le jour de l'Annonciation, c'est que Jésus, quelques secondes plus tard, allait dire oui à Dieu. Comme dit l'Épître aux Hébreux, en entrant dans le monde, le Fils de Dieu dit oui à son Père. Le cardinal de Bérulle, quand il écrit Une vie du Christ, considère que toute la vie du Christ est l'épanouissement de ce oui fondamental que Jésus a dit en entrant dans le monde. Et toutes les petites images que Thérèse avait sous les yeux disaient la même chose. Et c'est pour ça qu'on aimait représenter Jésus, enfant, sur une croix, ou tenant une croix dans la main, parce que c'est déjà la victime du calvaire qui s'offre à son Père. Cela ne veut pas dire que lorsque Jésus rabotait des planches, il disait un jour, je serai sur une planche. Vous voyez, je serai cloué sur une croix. Non, c'est progressivement qu'il a pris conscience de la façon dont il devrait réaliser sa mission. Il n'empêche que tout au fond de sa conscience humaine, là où il se savait le fils bien-aimé du Père, il pouvait déjà s'offrir au Père. Et Thérèse, comme Grignon de Montfort, comme Marguerite Marie, comme tous les saints pratiquement de l'Église, ont cru que Jésus était capable de penser à elle dans sa vie publique. Quand Thérèse médite l'agonie, elle pense que Jésus, à Gethsémani, a été consolé en voyant les actes d'amour que ferait une petite carmélite de Lisieux au XIXe siècle. Quand Pascal fait dire à Jésus « Je pensais à toi dans mon agonie, j'ai versé telle goutte de sang pour toi », Pascal ne fait que dire ce que pensaient Saint Vincent de Paul, Saint Jean Eudes, Jean-Jacques Ollier, le cardinal de Bérulle, tutti quanti, quoi. C'était encore un mystère. Il y a un niveau où Jésus était capable de rejoindre tous les hommes de tous les temps. Si vous comprenez, vous avez bien de la chance, mais je crois que vous ne comprenez pas. Hein? C'est fondamental pour comprendre toute la spiritualité du Sacré-Cœur. Jésus a été consolé à Gethsémani par les actes d'amour que nous faisons maintenant. Et Thérèse imagine l'ange dont parle l'Évangile selon Saint-Luc, qui vient réconforter Jésus au cours de son agonie. L'ange présente à Jésus tous les actes d'amour, tous les actes de consolation qui allaient être faits au cours des siècles. Bon, donc, la foi formidable de Marie. Alors, évidemment, il y a bien autre chose qu'on ne peut imiter en Marie, notamment sa charité fraternelle, telle qu'elle apparaît dans l'Évangile, que ce soit à la Visitation ou dans l'Évangile des noces de Cana.